France Culture, 18h, voici le journal d'Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Les attentats qui ont fait 290 morts hier au Sri Lanka sont attribués à un mouvement islamiste local, peut-être aidé par un réseau international. Pour l'enquête, les autorités sri-lankaises vont bénéficier de l'appui du FBI et d'Interpol. En Algérie, une enquête pour corruption vise des proches d'Abdelaziz Bouteflika. 5 milliardaires algériens ont été arrêtés, dont l'homme le plus riche du pays. Les sanctions américaines vont bientôt s'appliquer à tous les pays importants du pétrole iranien. Début mai, prévient Washington, il n'y aura plus d'exemption. Plusieurs journalistes blessés, deux journalistes interpellés lors de l'acte 23 des Gilets jaunes samedi. Les syndicats réagissent, dénonçant répression et tentative d'intimidation. Le Sri Lanka est placé en état d'urgence et un nouveau couvre-feu a été décrété. Les écoles et la bourse de Colombo sont restées fermées aujourd'hui au lendemain de la vague d'attentats suicides qui a fait au moins 290 morts dans l'île d'Asie du Sud. Parmi les victimes identifiées, 31 étrangers dont un français et quelques 500 personnes ont également été blessées. Le FBI américain assiste les autorités sri-lankaises dans leur enquête et Interpol a annoncé le renforcement de son aide. Pour le gouvernement sri-lankais, les responsables de ces attaques contre des églises et des hôtels de luxe sont des islamistes appartenant à un mouvement local mais qui ont pu bénéficier d'une aide étrangère. Sur le terrain, Sébastien Farcy, le déminage continue.
Une nouvelle explosion a semé la panique cet après-midi à Colombo. Heureusement, celle-ci a eu lieu suite à une opération contrôlée de déminage menée par la police sri-lankaise. Un camion chargé d'explosifs se trouvait près d'une église et les spécialistes l'ont fait sauter après avoir évacué le périmètre. Cela montre en tout cas la tension et les risques qui demeurent plus de 36 heures après la série d'attentats contre les églises et les hôtels du pays. Une bombe artisanale a déjà été désamorcée hier soir sur la route de l'aéroport alors que le président était en train d'atterrir. Et cet après-midi, 87 détonateurs ont été trouvés par terre dans la station centrale de bus de Colombo. L'enquête se poursuit en parallèle pour savoir quel type d'explosifs ont été utilisés et comment une telle quantité a pu être utilisée pour ces attaques et par quelles mains expertes. Interpol vient aider pour cela la police locale et a déployé des spécialistes dans l'examen des sites d'attentats, l'identification des victimes et des explosifs, ainsi que dans la lutte antiterroriste. Le président a quant à lui signé un décret qui offre certains pouvoirs spéciaux à la police pour détenir et interroger des suspects.
5 milliardaires algériens, dont des proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, ont été arrêtés en Algérie. Selon la télévision nationale, ils sont visés par une enquête anticorruption. Le 1er avril dernier, le parquet avait annoncé l'ouverture d'enquêtes préliminaires pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. Et les autorités avaient affirmé que plusieurs personnalités du monde économique étaient sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire. Les précisions de Leïla Berato à Alger.
Des images tournent en boucle sur des chaînes de télévision privées. Issad Rebrab, le propriétaire du groupe Cevital, un milliardaire, première fortune du pays, amené dans un fourgon de la gendarmerie au tribunal d'Alger. La télévision nationale annonce qu'il était arrêté. Le groupe Cevital dément et affirme que l'homme d'affaires de 74 ans était entendu par la gendarmerie sur l'un de ses projets d'investissement bloqués. Autre annonce de la télévision, les quatre frères Kouninef, à la tête d'un groupe qui pèse 300 millions de dollars, ont eux aussi été arrêtés par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête liée aux conditions d'obtention de marchés publics. Les quatre hommes sont très proches de la famille Bouteflika. Selon la presse, ils ont fait partie des financeurs des campagnes électorales d'Abdelaziz Bouteflika et le groupe qui travaille dans le secteur de l'hydraulique et du bâtiment a également construit sa fortune grâce à la commande publique. C'est une situation similaire à celle de Ali Haddad, l'ancien leader du FCE, l'organisation patronale et qui a été arrêté le 31 mars dernier alors qu'il voulait passer la frontière tunisienne.
Les États-Unis renforcent leur pression économique sur l'Iran. Washington vient d'annoncer la fin des exemptions permettant à certains pays d'acheter le pétrole produit par la République islamique. Donald Trump et son administration comptent ainsi tarir la plus importante source de revenus iranienne au risque de tendre un peu plus le marché du brut. On retrouve Loïc Loury à New York.
Terminé les exemptions, plus personne ne pourra se fournir en pétrole auprès des Iraniens. En novembre dernier, après être sorti de l'accord sur le nucléaire, Washington avait rétabli ses sanctions contre Téhéran et bloqué en bonne partie ses exportations de pétrole. Des dérogations toutefois avaient été attribuées pour ne pas trop brusquer le marché mondial. Ce sont ces mêmes exemptions qui viennent donc d'être levées. Elles concernaient 8 pays dont la Chine, l'Inde, la Corée du Sud ou l'Italie. Dès le début du mois de mai, ils ne pourront plus acheter leur pétrole à la République islamique. L'objectif pour les Américains est simple, disait ce matin le secrétaire d'État, mettre un peu plus la pression sur les Iraniens en ramenant à zéro leurs exportations de pétrole et ainsi enlever au régime sa principale source de revenus. Reste cependant à attendre les conséquences d'une telle décision. 1 million de barils par jour sont retirés du marché alors que celui-ci, sous tension, atteint déjà son plus haut cette année. Mais Washington l'assure, son allié saoudien notamment et d'autres pays producteurs compenseront la baisse. Nos sanctions, affirme Donald Trump, sont désormais complètes contre le pétrole iranien.
Il y a maintenant 19 candidats à l'investiture démocrate pour affronter Donald Trump en 2020. Le dernier candidat est un ancien combattant de la guerre d'Irak et élu du Massachusetts à la Chambre des représentants. Seth Moulton, 40 ans, est très critique vis-à-vis de la direction de son parti. Il est favorable à un renforcement de la législation sur les armes ainsi qu'à la légalisation du cannabis. Au Brésil, l'ancien président Lula est incarcéré depuis 1 an. Accusé d'avoir reçu un appartement en échange de faveurs, il a été condamné à 12 ans de prison, mais l'accusation n'a produit aucune preuve sur la propriété de ce bien, ni sur les faveurs que Lula aurait accordées. Lula était en tête des intentions de vote pour la présidentielle quand il a été envoyé en prison. Depuis, le nouveau président Jair Bolsonaro a nommé le juge qui avait condamné Lula ministre de la Justice. Dans ce contexte, la gauche brésilienne considère Lula comme un prisonnier politique et sa libération est son combat le plus important. Des militants se mobilisent d'ailleurs sans relâche sur un terrain situé juste en face de la prison de Lula, terrain qu'ils ont rebaptisé la veillée pour Lula. Le reportage d'Anne Vigna.
C'est le même rituel. Chaque matin, le mouvement des sans-terre arrive en colonne et en chantant « Le peuple est arrivé, courage Lula, car la lutte ne fait que commencer ». Les sans-terre se joignent alors aux militants du Parti des travailleurs, aux féministes, écologistes et anonymes présents à la veillée pour Lula. Un terrain aménagé face au bâtiment de la police fédérale où est enfermé Lula depuis 1 an.
C'est dimanche matin, cela fait plaisir de voir tant de gens qui luttent à nos côtés. Cette veillée, elle est là pour recharger nos batteries. Nous voulons la liberté de Lula parce qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement honteux, un gouvernement qui a mis fin à toutes les politiques sociales. C'est le gouvernement des riches et des patrons, très différent du gouvernement de celui qui est ici. Et c'est pour cela que nous sommes ici, car nous savons qui a été Luiz Inácio Lula da Silva quand il a été à la présidence et nous voulons un nouveau gouvernement populaire.
Il est 9h du matin et c'est le moment de crier un bonjour président Lula. Un rituel qui se répète 3 fois par jour, explique le coordinateur du mouvement des sans-terre, Roberto Bajo.
Tous les jours, le matin, l'après-midi, le soir, nous renouvelons cet engagement collectif pour dire que cette veillée ne se terminera que le jour où Lula sera avec nous. C'est une veillée qui a pour objectif de faire vivre sa mémoire, de rappeler que Lula a passé sa vie avec le peuple, que ce soit dans la rue ou en réunion. Et ce qui est le plus difficile pour lui, c'est d'être ainsi isolé, sans aucun contact avec l'extérieur. Donc l'objectif de la veillée est qu'il ressente un peu de chaleur humaine. Il a dit à plusieurs reprises que s'il tenait bon dans sa prison, c'était grâce à cette veillée que nous continuons à faire vivre.
À côté du mouvement des sans-terre, se relaient dans cette veillée les principaux acteurs de la gauche brésilienne. Un phénomène inédit, explique le sociologue João Laguens. Il réalise actuellement une recherche sur cette veillée.
J'accompagne depuis le début ce campement dans une perspective de recherche. Le campement Lula Libre a des mouvements de lutte sociale, des mouvements féministes, le mouvement des sans-terres, le syndicat des métallurgistes. Bref, une très grande diversité de groupes représentés qui sont ici dans leurs différences et qui n'ont pas la même idée pour le pays, mais ils convergent ici sur la perception que l'injustice commise contre Lula est un coup d'État contre la démocratie. Et c'est effectivement le cas. Cette prison a changé les résultats de l'élection présidentielle, a des applications directes sur la perte des droits que nous vivons, mais la seule chose que tous ces groupes ont en commun, c'est de dénoncer l'injustice de la prison.
En plus des mouvements sociaux, la veillée reçoit des anonymes de tout le Brésil. Sur le livre de visite, le décompte approche les 19 000 visiteurs, comme Rafaela, venue de São Paulo.
C'est la première fois que je viens à Curitiba, et hier, je ne pouvais pas contrôler mes larmes. Lula représente une ascension si grande pour la classe des travailleurs. Et je crois que notre élite a voulu mettre un arrêt à cette politique. C'est pour cela que nous devons lutter pour sa liberté.
Pour l'avocat de Lula, Cristiano Zanini, joint par téléphone, Lula est uniquement poursuivi pour son engagement politique.
L'ancien président Lula est en prison depuis un an. Lula vient également d'être à nouveau condamné en première instance et poursuivi dans d'autres procès, tous basés sur des accusations frivoles et sans preuve matérielle. Tout cela fait partie d'un phénomène qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation perverse des lois à des fins de persécution politique.
Le juge qui l'a condamné est aujourd'hui le ministre de la Justice du gouvernement de Jair Bolsonaro. Dans ce contexte, la gauche a peu d'espoir de le voir sortir prochainement de prison. Le Parti des travailleurs a commencé une campagne internationale pour sa libération pendant que les mouvements sociaux chantent tous les soirs sous les fenêtres de la prison de Curitiba pour que Lula n'abandonne pas le combat.
Anne Vigna, correspondante de France Culture au Brésil. Pour les observateurs internationaux déployés pour surveiller l'élection présidentielle en Ukraine, l'élection a été pluraliste et a respecté les libertés fondamentales. Les observateurs appellent désormais à un transfert sans accroc du pouvoir. Petro Poroshenko doit s'incliner et laisser la place au comédien Volodymyr Zelensky, élu triomphalement avec plus de 70% des voix. Volodymyr Zelensky est plutôt bien perçu par l'Union européenne, même si au cours de sa campagne, il est resté relativement flou sur ses intentions. Dans son premier discours, il vient de promettre de relancer le processus de paix impliquant la Russie dans l'est de l'Ukraine. Claude Bruyot, vous vous trouvez actuellement à Kiev. Avec ce nouveau président, est-ce qu'on peut s'attendre à une stabilisation des relations entre l'Ukraine et la Russie ?
Alors c'est certainement le point le plus sensible, hein, Aurélie, si l'on met en perspective les premières semaines à venir du mandat de Volodymyr Zelensky. Les relations avec la Russie ont été tellement tendues jusque-là que Vladimir Poutine en personne, il y a plusieurs mois déjà, avait laissé entendre que peu importe le vainqueur de la présidentielle en Ukraine, pourvu que ce ne soit pas Petro Poroshenko. Maintenant, lorsque l'on décortique un peu le raisonnement sur la question de Volodymyr Zelensky, pas sûr que le Kremlin y gagne au change. Il y a quelques semaines, le comédien candidat, dans un élan assez naïf, il faut bien le dire, annonçait qu'il irait à Moscou demander à la Russie de rembourser l'Ukraine pour les 5 années de guerre dans le Donbass et l'annexion de la Crimée. Plus récemment, Zelensky a précisé qu'il solliciterait les Russes dans l'idée de relancer le processus de paix dans le Donbass, objectif du futur président ukrainien, faire en sorte de garantir un véritable respect du cessez-le-feu dans l'est du pays, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'ensemble devant être évidemment mis en perspective, Aurélie, avec la réaffirmation par Volodymyr Zelensky de la volonté ukrainienne de rejoindre à terme les rangs de l'Union européenne ainsi que ceux de l'OTAN. Le nouveau président ukrainien n'aura pas trop de sa popularité de comédien jusqu'en Russie pour tenter de faire bouger les lignes.
Claude Bruyot en direct de Kiev. Après plus de 5 mois de mobilisation, des milliers de gilets jaunes étaient à nouveau dans la rue samedi. Venus couvrir le mouvement, 2 journalistes ont été interpellés. Si l'un a été libéré, l'autre, Gaspard Glantz, a été déféré au tribunal en vue d'une convocation à une audience ultérieure. Il aurait notamment fait un doigt d'honneur à un policier. Mais la secrétaire générale et porte-parole du SNJ, Dominique Pradalier, qualifie cette interpellation d'inadmissible. Elle dénonce plusieurs situations d'intimidation des forces de l'ordre à l'égard des journalistes.
Si on lui reproche seulement d'avoir fait un geste vilain à l'encontre d'un policier, ça devient complètement ubuesque, complètement ubuesque. Gaspard Glantz n'est pas le seul, puisque notre confrère David Dufresne a comptabilisé 74 journalistes qui, d'une façon ou d'une autre, ont été empêchés de travailler par les forces de l'ordre. C'est très choquant, le SNJ, ni personne d'ailleurs n'a jamais vu ça.
Ce que vous voulez dire, c'est que ça devient de plus en plus compliqué, au-delà du cas de Gaspard Glantz, pour les journalistes, de travailler au contact des forces de l'ordre ?
Ça devient de plus en plus compliqué pour les journalistes de rendre compte d'un mouvement social avec des forces de l'ordre qui agissent avec une répression jamais vue auparavant, jamais vue. On a vu des cartes de presse subtilisées, des journalistes injuriés, agressés, blessés, empêchés de travailler, matériel saisi, matériel fracassé, blessures graves. Je pense au jeune confrère de La Rochelle qui a sa rotule fracassée. Enfin, écoutez, on n'a jamais vu ça. Et c'est pas au cours d'affrontements ou d'autres choses, c'est presque au repos. Il y a une évidence, c'est que politiquement, on veut empêcher les journalistes de faire leur travail. Et c'est pour ça que nous posons des questions. Qui donne les ordres? Qui couvre les forces de l'ordre? Et quelles suites seront données à tous les signalements que font les David Dufresne, la Ligue des droits de l'homme, le SNJ, etc., etc. On a demandé au ministre de l'Intérieur d'assurer la sécurité des journalistes. Ça a été 100 fois pire le samedi suivant. Personne ne peut justifier ça. Personne. Dans un état de droit, les gens ont le droit de manifester, les gens ont le droit d'informer et d'être informés.
Dominique Pradalier du Syndicat national des journalistes répondait à Antoine Marette. Samedi, au cours de la manifestation parisienne, plusieurs manifestants, vêtus ou non de gilets jaunes, ont crié à plusieurs reprises « Suicidez-vous » à l'adresse des forces de l'ordre. Sachant que 28 policiers ont mis fin à leur jour depuis le début de l'année, on peut mesurer la violence de ce slogan. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis en réunion. Ce que Thierry-Paul Valette regrette, il est tête de liste au Rassemblement des Gilets jaunes citoyens qui projette de se présenter aux élections européennes et il explique sa position à Steven Goyer.
C'est vrai qu'il y a eu ces propos-là. Suicidez-vous, suicidez-vous. Ça, c'est hors de question. C'est macabre, c'est lugubre. Il y a un contexte vraiment qui est très particulier où la police, dans ses rangs, voit vraiment des vagues de suicides. Et il y a aussi un réel malaise depuis de nombreuses années qu'il faut à tout prix solutionner. Alors, on dénonce bien évidemment ces agissements et ces propos. Mais seulement, on est dans un contexte où on ne cesse de durcir le ton. On a vu le droit de la presse qui est bafoué. On est dans de la surenchère, on est dans un rapport de force. Et je pense qu'à un moment donné, dans une situation qui est explosive, il y a de la modération à apporter des deux côtés. On doit ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais au contraire, essayer de faire redescendre la pression. Et l'enquête, elle va servir à quoi? Est-ce qu'on va trouver les personnes? On va en trouver peut-être quelques-unes, on va pas trouver tout le monde. Alors après, on va stigmatiser les gilets jaunes. Moi, je ne vois pas l'intérêt de ça. De l'autre côté, il y a des violences policières qui sont réelles. Mais par contre, là, il n'y a pas une justice qui va très très vite. Et surtout que l'enquête est à la demande de M. Castaner. Donc, il faut jouer la carte de l'apaisement plutôt que de jouer la carte de la provocation et de la logique de confrontation.
Un message d'un brin angélique alors que des tags faisant écho au slogan de samedi ont été découverts aujourd'hui sur la façade de la gendarmerie de Landivisiau dans le Finistère. Suicidez-vous, flics suicidés à moitié pardonnés. La police vous protège, ça crève les yeux. Ces tags ont été rapidement effacés après le passage des enquêteurs et la réaction du ministre de l'Intérieur n'a pas tardé. Ces faits sont d'une extrême gravité, déclare Christophe Castaner. Les banaliser, ce serait donner raison à leurs auteurs qui doivent être identifiés et livrés à la justice. J'y veillerai. Fin de citation. Le grand débat national n'a pas calmé tous les esprits et les gilets jaunes n'attendent rien des annonces qu'Emmanuel Macron doit détailler jeudi. Les annonces qui ont fuité ont d'ailleurs plutôt relancé les débats. Dans son projet d'allocution, le président évoquait notamment la nécessité de travailler davantage car l'État cherche de l'argent pour baisser les impôts et pour financer la dépendance. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Aurélie.
D'après l'ancien directeur de la Sécurité sociale, Dominique Libault, auteur du rapport Grand âge et autonomie, il faudrait débloquer 9,2 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030. Alors parmi les solutions évoquées pour trouver ces fonds supplémentaires, les députés de la majorité explorent trois pistes. La fin des 35 heures, le report de l'âge du départ à la retraite, mais également une seconde journée de solidarité envers les personnes âgées et les handicapés.
Oui, et cette journée de solidarité existe depuis 2004. Elle consiste à travailler un jour dans l'année sans être payé. En échange de cette journée gratuite, votre entreprise reverse 0,3% de sa masse salariale brute pour financer les mesures afin de préserver l'autonomie des seniors. L'année dernière, les gains liés à la journée de solidarité étaient estimés à 2,42 milliards d'euros. 60% de cette somme finance les aides pour les personnes âgées, comme l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, tandis que le reste va pour les handicapés. Si la mesure dégage de l'argent, pour Gérard Cornillot, économiste à l'OFCE, elle reste un mauvais calcul pour les sociétés.
Aujourd'hui, elles payent en réalité 0,3% de leur masse salariale à titre de cotisation des entreprises. Et on leur fait croire que ça leur coûte rien parce que elles ont la possibilité d'employer leurs salariés une journée de plus dans l'année. Mais en réalité, comme ça n'augmente pas la production de l'ensemble de l'économie, ou de manière extraordinairement marginale, ça revient en fait à avoir augmenté les cotisations patronales.
Si jamais une deuxième journée de solidarité était mise en place, l'État pourrait potentiellement obtenir près de 5 milliards d'euros chaque année. On est donc loin des 9,2 milliards préconisés par le rapport Libault, et en plus, ce n'est pas forcément la meilleure solution.
Il n'y a pas de déjeuner gratuit, comme disent les économistes. Donc, en réalité, si on veut obtenir 2 milliards et demi de plus de cotisations pour financer les besoins relatifs au grand âge, eh bien, il faut augmenter les cotisations.
Et si l'idée du financement de la journée de solidarité reste encore un casse-tête pour le gouvernement, il pointe néanmoins un vrai problème sur la dépendance. Selon les estimations de l'INSEE, en 2050, un Français sur trois aura plus de 50 ans.
Merci David Ravier. Demain mardi, le temps sera souvent perturbé avec de la pluie dès le matin dans le sud-ouest et autour de la Méditerranée. L'après-midi, de belles éclaircies résisteront des Hauts-de-France au Grand Est et de la Franche-Comté aux Alpes du Nord. Ailleurs, le temps sera instable avec des ondées orageuses. Le matin, les températures iront de 8 à 14 degrés. 17 à 26 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.